Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous rendons cette fois-ci à la ferme des Boris, sur la commune de Combrette, pour la première partie de l'entretien avec Philippe, éleveur de brebis laitières Lacone. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Ben, je m'appelle Camon Philippe, je suis agriculteur au Boris, commune de Combrette.
Qu'est-ce que tu produis ici sur ta ferme?
Je produis du lait de brebis.
Du lait de brebis pour Roquefort, j'imagine?
Non.
Ah, pour toi-même?
Pour moi-même, on a monté une société avec ses... Enfin, on est 12 associés et on a repris en main notre système de commercialisation. Donc aujourd'hui, on est maître de notre système de commercialisation.
D'accord. Comment s'appelle votre société?
La SAS, les éleveurs du Rougier.
Les éleveurs du Rougier. Et c'est une SAS, c'est une société...
Anonyme. Je ne sais pas le nom exact.
Il y a un chef, c'est collégial,
ça fonctionne comme un chef. Il y a un chef, je suis le président.
D'accord, voilà, il y a quelqu'un qui prend les responsabilités.
Bon, qui prend les responsabilités, non, parce que, enfin, non. Au bout d'un moment, sur le papier, et en fonctionnement normal, il faut qu'il y ait un chef.
Voilà, c'est ça.
Mais après, on a tous des exploitations, donc on n'a pas forcément du temps libre à dégager beaucoup. Donc, on s'est réparti les responsabilités. C'est vrai que la partie responsabilité politique, décisionnelle, faire fonctionner le groupe et compagnie, bon, mais ça m'incombe plus à moi et à un collègue qui est le DG, on a le même âge tous les deux, puisqu'on a pris ce rôle. Ouais. Et après, il y a la commission commercialisation, la commission ici, la commission MI. Et on a une personne qu'on a embauchée qui chapeaute un peu toutes les commissions et qui nous fait en plus l'animation et l'administratif.
L'animation, ça consiste en quoi, en fait?
Eh bien, faire les réunions, aller voir la personne qui a un problème, dire, tiens, ça, on a ce problème sur la qualité du lait avec les clients, il faut travailler avec les gars qui font la commercialisation pour voir comment on peut gérer ça. Faire le lien, quoi. Ouais. C'est tout bête, mais dans une société humaine, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait le lien, eh bien, chacun fait son chemin et puis on s'entend plus.
Oui, c'est ça, ouais. Et alors, les autres exploitants, ils sont dans le coin aussi?
Oui. La majorité est sur la commune aux alentours entre Combrée et Belmont. Enfin, il y en a un sur la Val-Roquessaisière, mais qui touche la commune de Combrée. Mmh. Je pense que sur 6 exploitations, on est 5 à avoir des terres sur la commune de Combrée.
D'accord.
Oui, c'est sûr. Hein. Mmh. Et un qui est à Camels-Villa.
Et toi, sur ta ferme, tu es le seul à travailler dessus?
Non, je suis un GAEC avec mon épouse.
Le GAEC porte le même nom que la
non,
société?
Non, c'est le GAEC de Malais.
Le GAEC de?
Le GAEC du Malais.
Du Malais.
Par le biais de la SAS, mais ça fait une vingtaine d'années maintenant, qu'on a un salarié à mi-temps.
Salarié agricole?
Ouais.
Et ça fait combien de temps que toi, tu fais de l'agriculture? Et puis depuis combien de temps tu as monté cette entreprise?
Que je fais de l'agriculture, je dirais que depuis que je suis né.
Tu n'as pas eu le choix, presque?
Si.
Si,
si, si, franchement.
Plus tard, tu l'as eu?
Oui, non, mais j'ai toujours kiffé ce métier, j'ai toujours voulu faire ce métier, mais c'est sûrement pas mes parents qui m'ont dit, tôt faut faire ce métier. Ouais. Certes, je veux dire, surtout mon père, ils en ont été fiers.
Ouais.
Mais j'aurais fait autre chose, c'est pas pour autant que... Ouais. Mais moi, je veux dire, c'est... Je suis tombé là-dedans, quoi. Et je pense que je me serais pas... Ça n'a jamais été, même à l'école, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, que je disais que je voulais faire agriculteur, à l'époque, à mon époque, c'était presque ceux qui ne savaient pas faire autre chose qui allaient faire agriculteur.
Ouais.
Mais ça ne m'a pas dérangé.
Et tu as repris la ferme familiale?
Ouais.
D'accord, celle-ci.
Ouais. Ah ouais, j'ai repris l'exploitation familiale qui est depuis 5 ou 6 générations, je ne sais plus.
Venu? Ah oui, d'accord. D'où l'accent.
Voilà.
et donc cette SAS, vous l'avez montée quand?
On l'a créée en 2018. Février 2018.
Ouais, c'est assez récent.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a incité à vous installer, enfin à monter cette entreprise?
Qu'est-ce qui nous a incité? La première personne qui nous a... qui a fait le lien, c'est un jeune du coin qui était fromager et qui voulait créer son entreprise, sa fromagerie, quoi, avec du lait de brebis. Et il avait été voir à l'époque un conseiller à chambre d'agriculture, Joël Thomas, pour ne pas la citer, qui a dit « mais ton projet il sera viable et vivable si, dans la mesure où tu auras des producteurs avec toi. » Parce que tout seul, dans le système comme il est conçu, c'est très difficile d'accéder au lait de brebis, quoi. Donc il a commencé à ratisser, d'aller voir des paysans, ça s'est trouvé comme au jour où on a eu contact avec lui. On a pris, enfin, moi, c'est un projet qui m'intéressait, donc on est parti dedans. On a mis quand même 3 ans avant d'arriver à faire émerger le projet, pour arriver à trouver 6 personnes qui veuillent bien, avec qui on ait à peu près les mêmes affinités et qu'on parte sur ce projet, quoi. Parce que on peut pas dire, mais on est quand même habitué à être livreur de lait pour un système qui est ce qui est, mais qui a permis de vivre là, la région de vivre, quoi. Et ce qui nous a fait faire le tilt, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas 7 ans après, 8 ans, mais quand on avait commencé le projet, des zones comme nous, là, situées entre la route de la Conne et la route de Saint-Afrique, eh bien, au milieu, le camion du lait, il risque de se coincer un jour, donc si on peut l'écarter, on l'écartera, quoi.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la brebis laitière?
Parce qu'ancestralement, c'était la production qu'il y avait sur l'exploitation. Et que c'est vrai que quand moi, je me suis installé en 88, on c'était à l'époque des références et compagnie. Les vaches avaient des quotas, si émis, c'était très difficile de mettre en place une autre production. Puis bon, c'était pas une production qui me déplaisait, que je l'ai toujours trouvée cohérente par rapport au terroir qu'on avait. Et d'ailleurs, si on est sorti du système confédéral, on n'est sûrement pas sorti du système AOC. Enfin, on est sorti du système AOC par force, puisqu'on ne livre plus à la Confédération, mais... On se dit, nous, enfin moi je me dis enfant de Roquefort, et c'est pas faire de la qualité dans des territoires comme les nôtres qui sont assez hostiles, c'est une chose qu'on peut faire. Faire de la quantité, pour moi c'est beaucoup plus difficile avec nos produits du terroir. C'est plus, ça dépendra plus après des achats d'entrants extérieurs. Donc au bout d'un moment, on a abandonné le système, mais voilà quoi.
Et ce modèle économique, il est viable?
Le nôtre?
Oui, le vôtre.
Eh bien, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, on ne fait pas une montagne de bénéfices, mais on arrive à faire un bénéfice. On n'est pas peut-être à un prix rémunérateur plus qu'un autre, mais petit à petit, on peut y arriver. Ouais. Et puis, on travaille pour nous, quoi. Sauf qu'on est passé du statut de livreur au statut de vendeur. Et c'est...
Ça rajoute des tâches.
Ouais, ça rajoute des tâches. Et puis, culturellement, je ne pensais pas que ce soit une révolution dans notre tête aussi grande.
Ah oui?
Oui. Parce qu'on était habitués, et tous, hein, je veux dire, parce que moi je fais partie des plus vieux de la société, mais on a des gars qui ont 35-40 ans, là, la majorité, mais culturellement, on est habitué à livrer un agriculteur. Quel est le maraîcher, livre au marché, le silomi, enfin, à part celui qui fait le marché, mais on livre du grain, on livre ci, puis on attend le prix. On n'a pratiquement aucun impact sur le produit qu'on a. Ouais. Et là, tout d'un coup, il a fallu dire, bon, mais ok, on a fait un produit, il faut le vendre, avec les contraintes qu'implique la vente, à quel prix, comment on gagne de l'argent, comment on fait tourner une boutique, on a appris un autre métier, mais c'est une petite révolution culturelle pour nous.
Et plutôt content du résultat pour l'instant.
Oui.
C'est le cas de tous les autres aussi.
Pense que c'est ressenti comme ça, oui.
Et donc, cette SAS que vous avez créée, elle a vocation à accueillir d'autres personnes, d'autres agriculteurs?
Oui. Bon, on est en train de recruter des gens si on peut y arriver. C'est vrai qu'économiquement, on n'est pas encore un tarif qui fait que c'est très attractif. Donc, c'est un peu plus difficile. Puisque la preuve, c'est qu'on est les 12 qu'on est partis dans les 6 exploitations, on est tous là et on est contents de notre truc. Mais économiquement, on n'a pas. Il est clair qu'on a. Si on avait continué le schéma traditionnel, avec l'augmentation, même qui n'est pas une augmentation phénoménale, il y a quand même une petite augmentation, je pense qu'on aurait perdu moins d'argent. D'accord. Mais bon, on a acquis beaucoup de choses. Déjà, il faut accéder au marché, il faut faire un tas de trucs, et puis on peut arriver. Je pense qu'on peut arriver, et même c'est certain, parce que les productions font que, à mieux. Mais là, aujourd'hui, oui, on va accueillir sûrement du monde, si on arrive à trouver des gars qui veulent... Parce qu'on a un cahier des charges aussi qui fait que... On produit qu'avec du lait de foin... Donc, je veux dire, du pâturage et du lait de foin, ce qui n'est pas, malgré que l'AOC se dise défendre ça, ce n'est pas le cas de toutes les exploitations.
D'accord. Pour revenir à ta ferme, combien de brebis as-tu, à peu près?
Aujourd'hui, on a un troupeau de 400 brebis laitières.
400 brebis. Ouais. Et combien d'hectares?
120 hectares et seul.
120 hectares, sur d'un seul tenant?
À peu près, oui.
Ah oui?
Ouais, ouais.
Ah bien.
Ouais,
ils sont tous à toi? Ou tu
non.
Fais du fermage?
Ah. Non. Moi j'ai vraiment vécu la période de déprise agricole, quoi. Ah. Je me suis installé sur 54 hectares et ça a eu. Et puis je suis arrivé à Saint-Bain et j'ai jamais voulu monter plus haut parce que j'aurais pu. Ça gênait personne. Mais dans notre région, on a vu partir les agriculteurs, quoi.
Qui n'étaient pas remplacés?
Non.
Après, peut-être au-delà de 120 hectares, ça devient difficile. Enfin, c'est du boulot par-dessus la tête.
C'est du boulot par-dessus la tête. Et puis bon, les possibilités d'agrandissement, elles sont arrivées à 45-50 ans, à un moment où on n'a pas eu envie de...
d'en rajouter.
Voilà, d'en rajouter. Ouais. Puis il ne faut pas, dans notre philosophie avec ma femme, c'est... il ne faut pas vouloir dire que le pays se dépeuple en accaparant tout. Il faut être un peu cohérent.
Ouais, il faut laisser la place aux autres un peu.
Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, moi je veux dire, des terres, on m'en a proposé et dans notre coin, il n'y a pas de... La bagarre du foncier n'existe pas pour le moment.
D'accord.
Je ne sais pas si elle existera un jour, mais si elle existe, c'est pénible, mais c'est bien parce que le pays est vivant, il y a beaucoup de monde. Mais là, ce n'est pas le cas.
Ouais. Et ça, tu penses, c'est particulier à ce secteur-là, genre Belmont, Combrette
Belmont, moins. Mais les contreforts, là, puisque moi, mon exploitation, quand tu es de l'autre côté du Graal, ça... Quand tu es les contreforts des monts de la Cône, c'est beaucoup plus accentué. Quoi. Les zones où c'est qu'il manque, il manque du monde pour reprendre les terres et tout. D'ailleurs, c'était un des objectifs aussi qu'on est parti de la SAS, c'est de dire on se différenciera un peu du système roquefort et peut-être ça peut intéresser quelqu'un pour reprendre notre exploitation, puisque nous, on a trois filles, mais qui ne sont pas intéressées, plutôt que de garder le schéma traditionnel.
Quoi. Et ici, le problème, c'est quoi? C'est les pentes, c'est le relief, c'est...
Il y a le relief, il y a...
faible production, les terres un peu pauvres.
Oui, parce que bon, c'est des terres qui ne peuvent pas faire, enfin, qui peuvent pas faire stock. Dans mon raisonnement à moi, je ne suis pas le seul dans le coin à le partager, c'est que si tu veux arriver à une cohérence économique, il te faut faire valoriser tes stocks par un système de pâturage. Et c'est beaucoup moins simple, malgré que ce soit basique et ancestral, c'est sûrement moins simple à mettre en place qu'un système de stock avec un tracteur et ramener tout à une bergerie. Quoi. Ouais. Il y a un savoir-faire, et ce savoir-faire-là, je ne crois pas qu'encore l'éducation nationale l'ait pris beaucoup en compte. Ouais. Et ça prend de bouche à oreille de ce que tu as vu, mais pas beaucoup par le corps technique, ou très peu, et pas du tout par le corps enseignant. Quoi.
Et donc, toi, tu as toujours fait de l'agriculture, tu as grandi dans ce milieu-là. Tu as toujours travaillé sur cette ferme-là ou tu as déjà travaillé ailleurs? Est-ce que tu as passé des diplômes?
Oui, enfin, j'ai passé le minimum pour pouvoir m'installer. J'ai mon BEPC et mon BEP agricole. Après, je me suis installé à 24 ou 25 ans. Et pendant de 18 ans que je suis sorti de l'école, pendant 5 ou 6 ans, j'ai fait... Je suis resté dans le coin puisque ma mère avait un petit problème de santé qui faisait que, bon, des fois, il fallait pallier au niveau main-d'œuvre. Ouais. Mais j'allais bosser en droite à gauche, j'ai mené une moissonneuse, j'ai travaillé dans une entreprise de maçonnerie, j'ai fait mes petites expériences à côté. Ouais.
T'as appris beaucoup de choses chez les autres?
Ah oui.
Ah oui?
Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'installer, c'est qu'avant qu'il ait signé le papier d'engagement, il faut qu'il aille voir ailleurs.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
C'est le meilleur moyen pour apprendre.
Pour apprendre des autres, quoi.
Ah oui, oui, oui. Ils apprennent des autres. Bon, en plus, moi, j'ai fait partie des personnes qui, encore, faisaient l'armée. J'ai fait un an d'armée. Mais bon, ça toujours. Et puis ça a toujours été dans ma philosophie. Je veux dire, même depuis qu'on est marié avec ma femme, on a toujours essayé d'aller voir chez les autres.
Et comment tu vends ta production alors? Comment vous vendez votre production?
Aujourd'hui, on vend notre production à des fromagers.
À des fromagers dans des boutiques, quoi?
Non.
Ah.
À des fromagers, c'est à des laiteries plutôt. À des transformateurs qui, ou n'ont pas assez de produits, ou n'ont pas le lait de brebis comme produit. Ou carrément aucun autre fournisseur que nous. Parce qu'on s'est aperçu, enfin, on avait pris exemple sur le Aveyron Brebis Bio, qui commercialise comme nous le lait en vrac à des fromageries qui font le fromage. Quoi. Et on s'est aperçu qu'il y avait un marché du lait en conventionnel aussi, puisqu'on est en conventionnel. Et qu'ils vendent, il y a des fromageries qui n'ont pas de producteurs. Ils ont la fromagerie, les salariés, le produit, le fromage, la recette des fromages ou des produits frais, les accès au marché, mais ils n'ont pas le lait. Et c'est une réalité un peu dans toutes les productions. Le petit fromager a de grosses difficultés, s'il n'a pas son propre troupeau, à accéder au lait. Parce que le système industriel est fait que tu veux du lait, oui, tu as 10 000 litres. Sauf que quand tu as une possibilité de transformation de 500 litres par jour, et bien 10 000 litres, tu en as pour 20 jours. Ouais. Tu peux le jeter.
Ouais.
Et faire les épiciers du lait, comme on dit, nous, et bien c'est pas répandu, mais dans beaucoup de productions. Quoi.
Et ça se fait. Et donc, du coup, tu sais où part ton lait?
Moi, personnellement, non, puisque je ne m'occupe pas de cette partie-là. Mais au jour le jour, ceux qui, les deux ou trois qui s'en occupent, les deux, puisqu'ils savent, ils contactent les clients et ils affectent le lait en fonction de la production. Un tel il veut 1000 litres, un tel il veut 500 litres, un tel il veut 700 litres. Et, voilà.
Et combien vous produisez de litres à vous tous, alors, à peu près sur l'année?
Sur l'année, on fait 500, un peu plus de 500 000 litres.
Et ouais. Donc, ça peut partir, ça peut être transformé dans
d'autres départements. Ça peut être à Bordeaux, à Grenoble, à Bastia, à Bayonne.
Être vendu après à Paris, à Strasbourg.
Le fromage?
Ouais.
Ah, mais le fromage, on ne regarde plus. Nous, on vend la matière première.
D'accord, ok.
Après, le gars, il le vend où il veut, où il peut. Nous, on vend le lait. On facture le lait.
D'accord.
Au gars. On a mis un système en place, c'est qu'on a, embauché un salarié qui nous fait la collecte avec un camion, un camion frigo. On met le lait dans des containers, un peu style bib à vin.
Oui.
Ben, le container, c'est comme le carton du vin, sauf que c'est en alu. Et dedans, on y met une poche alimentaire. On remplit cette poche sur les exploitations. Le camion, on le met au froid. On le mène à... La chance qu'on a, c'est qu'on est dans une région où la logistique est là, puisque c'est une région de production. On le mène chez Galtier, qui, par le réseau TFE, transport froid et je sais plus quoi, là, nous le redistribue. Je veux dire, on a 1000 litres à envoyer à Grenoble, mais il pose sur la plateforme de Grenoble. La plateforme de Grenoble va livrer le producteur, oui. Fait le transformateur, et lui, après, il fait ce qu'il veut de solder. Quoi.
Ah, c'est un métier, c'est marrant.
Voilà.
Et transformer votre lait, vous, ça vous intéresse pas?
Si.
Ah.
Ça a toujours été l'objectif, puisque l'objectif ouais. du jeune qu'il y avait, c'était de faire la fromagerie. Ouais. Ça a toujours été ça. Sauf que quand on a regardé la cohérence économique, investir 2 millions d'euros pour transformer 500 000 litres, ou par là à peu près la somme, c'était très risqué.
Ouais.
Sachant qu'en plus, on n'avait pas la disponibilité en main d'œuvre, nous, d'aller bosser sur la structure.
Ouais.
Enfin, dans notre temps de réflexion, on avait été voir nos collègues au Pays Basque qui sont plus avancés sur ce sujet-là. Et on a trouvé des réussites, hein. Mais on a trouvé des gars qui, quand même, avaient, humainement, avaient payé cher de leur personne pour arriver à une réussite économique. Quoi. Ouais. Donc, on a toujours préféré partir petit, sans trop de capital, puisqu'aujourd'hui, on a vendu notre lait avec une location de containers et une embauche d'un salarié ou deux, puisqu'on a un groupement d'employeurs pour pouvoir qu'ils prennent leur congé, et un camion d'occasion. Et on a réussi à vendre notre lait et à créer une cohérence économique.
Ouais, très bien.
Et là, notre objectif, c'est de faire un fromage, toujours pareil, en sous-traitance, et d'arriver au marché du fromage. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de gros investissement dans un outil de transformation. Puisque contrairement à ce qu'on pensait, il y a quand même des unités de transformation qui sont en sous-réalisation et qui ont besoin de ça pour vivre. Quoi.
Mmh. Vous le savez ça avant de vous lancer là-dedans ?
Non.
D'accord.
Non,
comment non. Vous l'avez su ?
Eh bien, c'est nous que, enfin, dans notre façon de fonctionner, nous, on a toujours essayé on a toujours mis une partie de l'argent dans des gars qui sont des consultants ou d'autres personnes qui nous accompagnent techniquement, parce que tout savoir, c'est pas la peine.
Oui.
C'est une erreur, ouais. Parce que tu la payes cher, quoi. Donc, au lieu de mettre l'argent dans la tentative, dans l'essai, et puis d'aller au clash, autant payer quelqu'un qui te conseille. Et d'aller voir, et donc on a eu des personnes, on a encore des personnes qui sont intervenues, qui ponctuellement, quand on a un souci, ben, parce que ça par contre, c'est une chose qu'on a appris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de te conseiller. Après à toi d'être patron de ta boutique, mais ça c'est quand t'es patron, quoi. Tu fais le choix après, et ça nous a permis d'avancer, et on a fait des enquêtes, parce que le fromage... On pensait qu'il faudrait faire une unité et tout, puis après tout, quand tu te renseignes, ben, tu t'aperçois qu'il y a des gars qui sont prêts à faire ça, quoi.
Ouais.
Parce qu'ils ont créé des outils, et indirectement, le manque de producteurs est criard et commence à arriver, parce qu'en lait de brebis, il manque du volume.
Mm-hmm.
Et même en lait de vache et compagnie, ben, malgré ce que ça défend tout le monde, et, surtout dans des régions comme nous où la désertification, elle arrive. Et bien, donc les gars, ils ont des unités, ils ont des salariés, ils ont tout, et bien ils trouvent, ils font travailler à façon, et puis c'est pas gênant pour eux, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est pas exactement notre produit, on l'affine pas comme on veut, on le fait peut-être pas comme on veut, mais ça nous permet d'arriver à un stade, puis après on verra où va aller voguer le navire, quoi.
Les jeunes s'en occuperont de ça.
Ben oui, de toute façon, moi je crois que l'erreur qu'on a fait... Dans des métiers manuels ou dans des métiers agricoles ou compagnie, il faut travailler sur du long terme, il ne faut plus travailler sur du court terme. Mmh. On a voulu assimiler ça à l'industrie où aujourd'hui, le jour J, on avait prévu de faire ça. Si on ne le fait pas le jour 1, on le fait le jour 2, mais sûrement pas le jour 10. Non. Mmh. Avec la nature, tu...
Ouais, c'est pas toi qui décides.
Non. Donc, on a un peu appliqué ce système à notre système de fonctionnement. Et bien, on va doucement.
D'accord.
Et puis, je ne sais pas où ça ira, mais... Donc, notre lait, nous, il part plutôt chez des petits faiseurs. Chez des gars qui... Alors après, non, c'est pas du tout. Il y a du gars qui nous achète le produit rien que pour faire des yaourts. Il y en a qui achètent pour faire des tomes ou des fromages de garde. Il y en a qui font toute la gamme avec notre lait. Il y en a qui ont déjà une gamme à eux, parce que c'est des producteurs qui vendent localement, mais qui n'ont pas le temps de s'occuper de plus de bêtes, parce qu'ils n'ont pas de main d'œuvre ou parce qu'ils ne veulent pas, et qui complètent par l'achat de lait.
Alors,
on a de tout profil, quoi. Ah ouais, notre lait, il fait des... Je pense, la gamme du lait de brebis, il va à peu près comprise par notre lait, quoi. Ouais.
Il y en a même qui font des glaces au lait de brebis.
Oui.
Ça se fait, là, au pied du Larzac.
Ouais.
Et est-ce que t'as le temps de partir en vacances ?
Ah ben ça, depuis que je suis installé, c'est une institution, au minimum 10 jours par an, voire 15, voire... À moyenne, on a toujours tenu le rythme, même mon épouse, 10-15 jours par an.
C'est bien.
Qu'on était salés.
C'est bien. Bon, on est encore loin des 5 semaines de congé payé du salarié, mais...
Ouais, enfin, quand tu regardes bien le salarié, quand il part plus de 15 jours de sa maison, il prend 5 semaines de congé payé pour aller faire le bois, pour aller s'occuper des gamins, pour aller refaire la chambre, pour aller...
Il n'a pas forcément les moyens aussi de partir trop longtemps en vacances.
Voilà, et puis, il faut qu'on apprenne quelque chose quand tu fais un métier comme le nôtre. C'est qu'on mélange tout. On dit qu'on bosse beaucoup dans le milieu agricole. Parce qu'on se lève le matin à 5h30 ou 6h ou 7h, suivant l'ami du paysan, pour aller traire. Et on finit la journée quand on a fini de traire le soir, ou quand on a fini de manger. Mais entre-temps, on a quand même été mener les gamins à l'école, refait la chambre de la maison, remplacer la tuile sur le toit du voisin, s'y est mis. Tout ça, quand tu es salarié, tu le fais pas.
Ouais.
Ou tu prends ton jour de congé, quoi. Donc, il faut quand même relativiser. Et oui, on bosse. Mais on bosse pas toujours pour du travail agricole, quoi. Pur et dur, productif. Ouais. Et c'est une liberté. Il ne faut pas l'oublier, quoi.
En plus, tu es sur place.
Oui.
Donc, ça t'ouvre des possibilités pour toi.
Oui, mais moi, je veux dire, nous, on en a vécu personnellement. Notre fille, la grande, a des problèmes en retard mental. Et bien, ma femme, pendant 5 ou 6 ans de sa vie, certes, elle venait m'aider souvent à traire parce que c'était hors des heures de rendez-vous, mais dans la journée, eh bien, elle partait pour s'occuper de la fille. Et puis, il fallait s'en occuper, quoi. Et puis, notre fille demandait. Mais notre métier nous a permis de le faire. Elle aurait été salariée, elle aurait peut-être pris un congé pour s'occuper de notre fille parce que c'était notre ami, mais économiquement, ça aurait été bien plus difficile, sûrement. Parce que bon, en plus j'avais la chance, ça c'est les institutions du monde agricole, mes parents m'ont aidé à ce moment-là, mon père surtout, qui était actif et qui a pu. Mmh. Et mais je veux dire, il palliait un peu le salarié qu'on avait pris à l'époque pour ça, mais on est arrivé à fonctionner. Et cette liberté, tu l'as parce que tu es patron. Je veux dire, un artisan peut le faire aussi. Mais un commerçant, déjà, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il est lié aux horaires de la clientèle. Et après, le salarié ne peut pas le faire. Donc, il ne faut pas quand même dénigrer tous les défauts du monde agricole, quoi. C'est ça, d'aller voir ailleurs, tu t'en aperçois. Enfin, quand tu fais 8h, midi, 2h, 6h, eh bien, finalement, ça fait 4h, 8h de travail. Midi, bon, mais 2h, t'as passé, t'as mangé, t'as fait ci, donc ça fait 10h que tu es absent de la maison. Et bien, quand t'as fait 10h, t'as pas forcément envie de faire grand chose de plus, quoi. Que t'arrives qu'il te faut faire la lessive, les devoirs et doucher les bosses.
Tu mets trop boulot dedans et puis.
Mais voilà, mais ça fait pas plus de travail qu'un agriculteur. Ou pas moins. Donc, relativisons quand même.
Toi, t'es content de ton sort finalement.
Ah oui. D'accord. Ah non, mais moi, je dénigrerai pas le métier.
Alors, je me fais une belle transition. Tu conseillerais donc ce métier, j'imagine.
Ah oui.
Et si tu conseilles ce métier à quelqu'un qui veut s'installer, sur quoi tu le mets en garde?
Il n'y a pas que le métier.
Ah.
Il y a du plaisir à faire un travail.
Oui.
Si tu te lèves le matin pour aller gagner que de l'argent, il faut aller dans la finance, mais il ne faut pas aller dans la. Il faut pas aller dans ce métier manuel. Enfin, je veux dire, c'est. Je le dis souvent, mais notre métier, un peu comme le vôtre, journaliste, c'est des métiers de passion. Donc, il y a des fois que la raison, eh bien, il faut la laisser un peu de côté et oser, quoi. Enfin, je veux dire, si on regarde le projet qu'on parle dans la SAS, si on est purement économiste, on s'est lancé dans le projet avec ma femme à 50 ans, c'était une erreur. Si on prend le. Mais on a la chance, par ce métier, de pouvoir le faire. On a vécu une autre expérience, on a connu une autre chose, on a créé d'autres liens. On a peut-être perdu 10 000 euros. Mais tout ce qu'on a gagné à côté, est-ce que ça vaut pas plus, quoi? Et ce métier-là, il permet ça, quoi. Il ne faut pas le voir que par le côté purement économique, stack et compagnie, quoi. Et quelle est la personne qui peut te dire, à 11h, le collège, il appelle parce que ton gamin, il s'est cassé n'importe quoi. Tu prends la voiture, tu t'en vas, tu laisses tout. Mais tous les métiers n'ont pas cette chance. Hein.
Non, c'est sûr.
Bon, mais ça fait partie des avantages du métier d'agriculteur. Tu vis dans un cadre de vie, enfin, mon gendre vient de partir là, et comme il te dit, comme au bureau, c'est pas mal quand même. Hein. Quand tu es au bout de ton plateau, là-haut, avec tes brebis ou même ton tracteur, que tu vois tout là autour, je veux dire, il y a des journées plus pénibles que celle-là, quoi.
Et alors, c'est quoi les principaux dangers qu'il faut prendre en considération quand on va dans l'agriculture?
Mais il ne faut pas se laisser manger par le travail. Certes, il faut calculer pour ne pas perdre de l'argent, parce que moi, je serais peut-être un peu vénal, mais j'aime bien travailler. J'aime bien accepter de faire des fois plus que les heures qu'on fait traditionnellement quand tu es salarié. Mais il faut gagner sa vie économiquement, mais il faut savoir se dégager du temps libre pour ses passions, pour sa vie privée et tout. Pas tomber dans le moule que nous dicte tout le monde, quoi. Parce que tu es patron. Donc, au bout d'un moment, les choix qu'on fait, il faut les assumer aussi. Il ne faut pas aller reprocher que c'est le système qui nous a mal commandé, parce que quelque part on a accepté. Mais il faut les assumer, mais il faut pas tout dénigrer, il faut regarder, quoi. Et puis il faut surtout aller voir à l'extérieur. Parce que.
Même en dehors du monde agricole.
Ah oui, surtout. Ouais. Surtout. Parce que c'est là que tu t'aperçois que finalement, le monde agricole n'a pas que des défauts.
C'est pas si mal.
Ah non, enfin, ouais. Je ne veux pas dénigrer personne, hein, mais pour avoir vu quelquefois, avoir pris la peine avec nos filles de partir en vacances, tu loues dans une banlieue ou par là à peu près l'appartement, et tu vois le mec qui vit en HLM et qui fait les 3-8 et compagnie là, avec son épouse. Franchement, même qui gagnerait 500 euros de plus que nous. Hein.
Ouais. Ouais, c'est pas facile, c'est sûr.
Ouais. Non, non, mais alors, l'éducation des enfants à tout a fait dire. Nous, ça nous est arrivé, les filles, elles restaient seules dans la maison, mais on savait très bien que, à part se renverser la casserole d'eau chaude sur la gazinière, elles risquaient plus rien d'avoir personne qui venait les embêter et tant de choses. Quoi. Ouais,
merci à Philippe pour son franc-parler et son accueil. Vous pouvez retrouver les paroles rurales ainsi que tous les autres programmes produits par notre radio sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.